Radio Kapi.
Les informations avec Blaise Chindani.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal du matin dont voici les titres. La vie a repris son cours normal dans la ville d'Uvira après le retrait des troupes rebelles de l'FCM-23 soutenues par le Rwanda. C'est ce qu'a déclaré ce mardi le gouverneur Jean-Jacques Purusi lors de l'émission Dialogue entre Congolais. Le recrutement des jeunes au sein de FARDC a officiellement débuté ce lundi à Mbujimayi, chef-lieu du Kasaï oriental. Selon l'armée, cette opération organisée au club de la Miba vise à constituer une brigade spéciale appelée Ranger. Vous suivrez à la fin de ce journal les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier qui débattaient sur les déploiements de l'armée congolaise à Uvira après le retrait des troupes de l'FCM-23 soutenu par l'armée rwandaise. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Avant d'aller plus loin dans ce journal, parlons de cette rencontre tenue ce mardi en marge du Forum économique mondial de Davos en Suisse entre le roi Philippe de Belgique, le ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévost et le président congolais Antoine-Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous avons réaffirmé notre engagement pour une solution pacifique à l'est de la RDC et le respect pour son intégrité territoriale et encourager un dialogue national inclusif. C'est ce qu'écrit Maxime Prévost sur son compte X. Il poursuit, je cite, « La Belgique reste un partenaire stratégique de la RDC, déterminé à soutenir la paix et assurer que les pays européens se préoccupent à suffisance de la situation humanitaire dramatique qui est vécue par la population indûment administrée par le M23. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. La vie a repris son cours normal dans la ville d'Uvira, en province du Sud Kivu, après le retrait des troupes rebelles du FCM-23 soutenu par l'armée rwandaise. C'est ce qu'a déclaré ce mardi le gouverneur Jean-Jacques Purusi lors de l'émission Dialogue entre Congolais animée par Guy Maté Tchongo. Il a indiqué que le gouvernement provincial devrait lui aussi s'installer dans les prochains jours avant d'appeler les populations réfugiés à regagner leur foyer. On écoute Jean-Jacques Purusi dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Les élèves ont repris les chemins de l'école, les commerces ont repris, les magasins ont repris. Nous venons de terminer une réunion du Conseil de sécurité élargie au Conseil des ministres. Demain, nous avons une autre réunion pour inviter les différentes institutions bancaires qui doivent reprendre leurs activités. Eh bien, tous les services de l'État ont repris et enfin, le Conseil local de sécurité que nous tenons demain va clarifier toutes ces questions et la vie a repris. Les populations ne vont pas revenir parce que nous continuons à faire le check des mines antipersonnelles déposées ici et là, y compris dans le bureau du gouvernement provincial et dans le bureau de l'Assemblée provinciale, ainsi de suite. Donc là, nous ne sommes pas installés dans ces locaux. Nous avons trouvé d'autres formules. Et pour la population, nous avons demandé sciemment à nos populations déplacées, à nos populations réfugiées, d'attendre encore 2 ou 3 jours avant de rentrer. Et donc, c'est nous, c'est la province, en collaboration avec les services amis burundais et tanzaniens, qui allons donner le go-ahead pour demander à la population quelle date ils peuvent rentrer. Parce que vous comprenez que nous avons plus de 300 000 personnes réfugiées.
La situation des droits humains reste alarmante en République démocratique du Congo. Au moins 542 violations et atteintes ont été documentées au mois de novembre 2025, soit une hausse de 28% par rapport au mois précédent. C'est ce qu'indique le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, publié ce mardi à Kinshasa. Ce rapport précise que les provinces de l'Est, en proie aux conflits armés, concentrent l'essentiel de ces violations avec un lourd tribut payé par les civils, notamment les femmes et les enfants. Plus de détails avec vous, Grâce Hamzati.
Selon le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, 9 cas sur 10 ont été commis dans les zones affectées par les conflits armés, principalement au nord Kivu, au sud Kivu et en Ituri. Les groupes armés restent les principaux responsables avec 78% des violations, notamment le M23, les Wazalendo et les ADF. Les agents de l'État sont également mis en cause dans 21% des cas, principalement des éléments de la police nationale congolaise et des forces armées de la RDC, à travers des arrestations arbitraires, des mauvais traitements et des atteintes au droit à la vie. Le rapport met aussi en lumière une forte recrudescence des violences sexuelles liées au conflit. En novembre, 91 victimes, majoritairement des femmes et des filles, ont été recensées, soit une augmentation de 28% par rapport au mois précédent. Là encore, les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu sont les plus touchées. Par ailleurs, le BCNUDH dénonce des restrictions persistantes de l'espace civique avec des enlèvements, des menaces et des atteintes aux libertés publiques, notamment dans les zones sous contrôle des groupes armés. Face à cette situation, le bureau conjoint appelle à renforcer la lutte contre l'impunité, à mieux protéger les civils et à poursuivre les efforts de prévention, de formation et de sensibilisation en faveur des droits humains sur l'ensemble du territoire national.
Dans le même registre, comment consolider la promotion du dialogue entre les défenseurs des droits de l'homme et les autorités locales? Cette question était au centre d'un échange organisé ce mardi à Bunia entre plusieurs organisations de la société civile engagées dans la promotion des droits humains. À cette occasion, les participants ont dénoncé les conditions sécuritaires difficiles dans lesquelles ils travaillent, marquées par des violences armées, notamment le meurtre de certains activistes et des menaces persistantes. Reportage de Jean-Claude Lokidile.
Au cours de l'année écoulée, 43 activistes des droits de l'homme ont été attaqués ou menacés, parmi lesquels 6 ont perdu la vie, déplore le réseau de protection des défenseurs des droits humains, une situation qui illustre les risques permanents auxquels ces acteurs sont confrontés dans leur travail, explique Meda Mpiana, membre de ce réseau.
Il y a des risques d'atteinte physique, il y a des menaces, c'est pourquoi d'ailleurs on a besoin de l'implication de tout le monde pour que nous puissions arriver à faire nos travaux dans des conditions bien sécurisées.
Face à cette situation jugée alarmante, des dispositions sont prises pour créer des espaces d'échange consacrés à la vulgarisation des instruments juridiques protégeant les défenseurs des droits humains, Maître Marc Djeta.
Premièrement, on a commencé par la vulgarisation de la loi qui parle des responsabilités, des devoirs et des droits du défenseur des droits de l'homme en RDC. C'est pour faire savoir aux autorités que nous ne sommes pas leurs ennemis, mais nous sommes leurs partenaires et nous devons nous considérer ainsi.
Ce programme mis en œuvre dans les 26 provinces de la RDC avec l'appui financier de l'Union européenne vise notamment à réduire les menaces pesant sur les acteurs de la société civile en contribuant à la construction d'un climat de confiance entre défenseurs des droits humains et autorités locales. Bounia, Jean-Claude Loki, dit les Radio Okapi.
Dans le territoire rural de Beni au Nord Kivu pendant ces temps, la majorité des femmes restent largement marginalisées et limitées aux activités agricoles, souvent privées d'éducation et d'accès aux postes de décision. C'est le constat du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, dans la région, qui a rencontré ce mardi le chef de bureau de la MONUSCO à Beni. Ce cadre permanent a sollicité l'accompagnement de la mission onusienne afin de sensibiliser les femmes et les hommes du territoire pour que chacun prenne conscience de l'importance du rôle des femmes dans la construction de la paix et le développement local. Écoutons Madame Éminence Bengue Mukerenge, conseillère du CAFCO Beni, au micro de Martial Papi Mukeba.
Le territoire de Beni, c'est une zone rurale où les femmes ne s'occupent que des activités agricoles. Et cette femme n'a pas eu la chance d'accéder à l'éducation. Et ça fait que cette femme n'a pas eu la chance de s'impliquer davantage dans la recherche de la paix et aussi à prendre la place de prise de décision. C'est pour cela que nous avons trouvé que cette femme, vraiment, elle est marginalisée. Et c'est pour cela que nous sommes venus vers le chef de bureau de la MONUSCO de nous accompagner dans nos activités afin que nous puissions sensibiliser cette femme, que cette femme puisse prendre conscience, puisse élever sa voix, afin qu'elle s'implique davantage à la recherche de la paix. Il faut que les hommes puissent prendre conscience que cette femme a un atout à la recherche de la paix dans cette zone. Que ces hommes aussi puissent accompagner les femmes, afin que ces femmes puissent aussi s'impliquer davantage dans la recherche de la paix. Nous disons vraiment à la MONUSCO de nous accompagner afin que nous puissions sensibiliser davantage cette femme et les hommes pour qu'ensemble nous puissions accompagner cette femme.
Le recrutement de jeunes au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, a officiellement débuté ce lundi à Mbujimayi, chef-lieu du Kasaï oriental. Selon l'armée, cette opération, organisée au club de la minière de Bakwangamiba, vise à constituer une brigade spéciale appelée Rangers. Des explications dans ce reportage d'Esther Ndalafina rendu par Benjamin Moudoumbi.
De les premières heures, plusieurs jeunes âgés de 19 à 25 ans se sont regroupés autour du site des recrutements. Diplômés et détenteurs des brevets sont particulièrement attendus pour rejoindre le rang. Témoignage d'un candidat.
Bon, je suis venu juste solliciter aussi l'enrôlement dans l'armée pour soutenir les pays, aussi servir les pays sous les drapeaux.
Moi, je suis venu ici pour entrer seulement dans la formation, pour faire dossier. Je voudrais me battre pour notre pays, défendre encore mon pays.
Lors de la cérémonie de lancement, le chef de mission a précisé que les nouvelles recrues bénéficieront d'une formation assurée par des instructeurs israéliens. L'objectif est de renforcer les capacités opérationnelles de cette brigade spéciale dans plusieurs domaines, dont l'aviation. Après l'inscription, les jeunes enrôlés sont immédiatement soumis à des épreuves d'aptitude physique, étape préalable à leur intégration définitive dans les FRDC.
Dans la province du Tanganyika, les activités commerciales ont été paralysées ce mardi à Kalemie à l'appel de la Fédération des entreprises du Congo. Par cette action, la FEC Tanganyika entend dénoncer la montée de la criminalité dans la ville, dont plusieurs de ses membres sont parmi les victimes. Selon diverses sources locales, la majorité des commerces sont restés fermés. Retour sur la journée d'hier à Kalemie avec vous, Paul Monanga.
Un habitant qui a sillonné une grande partie de la ville de Kalemie décrit la situation.
À part les motocyclistes et les taximens qui font le transport en commun, mais aussi les pharmacies, on constate que les activités commerciales à Kalemie sont fermées. 90% allant du marché Katanga-Kivu, passant par le boulevard Lumumba, où il y a beaucoup de boutiques dans les centres-villes, et aussi arrivé au plus grand centre d'activité à Kissé, où il y a un grand marché aussi, les boutiques qui sont dehors, aucune activité commerciale. Donc, le mot d'ordre donné par la FEC a touché tous ces coins.
Signalons que la FEC Tanganyika a adressé une correspondance au maire de Kalemie le 15 janvier dernier, lui annonçant la cessation des activités commerciales du 20 au 21 janvier, en signe de protestation contre la montée de la criminalité. En outre, la FEC réclame le respect du principe de redéveloppement dans tous les secteurs et particulièrement celui du péage à l'entrée de la SNCC vers les ports publics, peut-on lire dans la correspondance. Nous n'avons pas pu obtenir la réaction du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Tanganyika. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Situation similaire dans la ville de Kananga où le transport a été fortement perturbé ce mardi. Et pour cause, les conducteurs des mototaxis ont observé une grève. Selon plusieurs d'entre eux, ce mouvement visait à dénoncer les tracasseries dont ils s'estiment victimes de la part de la police. Ils accusent notamment des agents d'immobiliser leurs motos sans motif valable et d'exiger des amendes allant de 100 000 à 500 000 francs congolais pour les récupérer. Dans ce reportage, André Katendenga Lamouroumé revient sur la situation qui a prévalu hier à Kananga.
Depuis les matins de ce mardi, presque aucune moto-taxi n'est visible sur les rues, voire les taxis-bus. Les conducteurs de mototaxis observent un mouvement de grève pour dénoncer ce qu'ils qualifient des tracasseries policières répétées dont ils disent être victimes ces derniers jours.
Tracasserie beaucoup plus tard.
La tracasserie est devenue de trop. C'est la police de la circulation routière qui saisit les motos, mais aujourd'hui ce sont tous les services de la police. Et pour aller récupérer, on demande 500 000 francs ou 300 000 francs.
300 000.
Cette situation affecte fortement la population. Élèves, travailleurs et étudiants sont contraints d'effectuer les trajets à pied pour rejoindre leur lieu d'activité. Certains arrivent en retard, tandis que d'autres ont préféré rester à la maison au regard des longues distances à parcourir.
Nous étudions à Katambay là-bas, mais quand il n'y a pas de transport en cours de route, il n'y a pas les moyens de partir.
Nous allons arriver en retard parce qu'il n'y a pas les transports.
Dans les points chauds de Kananga, des éléments de la police sont déployés et des véhicules d'intervention sillonnent les principales artères de la ville afin d'étouffer la marche prévue par les conducteurs des mototaxis. Nous avons tenté en vain de rencontrer les commissaires provinciaux de la police. Kananga, André Katendenga Lamoulmé, Radio Kapi.
Au Congo central, depuis 4 jours, les robinets sont à sec dans plusieurs quartiers de la ville de Matadi. Cette pénurie d'eau potable perturbe le quotidien de nombreuses familles, contraintes de s'approvisionner aux bornes fontaines ou directement dans les fleuves. Dans un communiqué publié ce lundi, la Régie des eaux indique que cette situation résulte de l'arrêt de ces usines de production d'eau survenue dans la nuit du dimanche 18 janvier 2026 à la suite d'une panne sur les réseaux électriques de la Société nationale d'électricité SNEL. Nana Plurich Mambou.
Les quartiers secoués par cette pénurie d'eau potable sont ceux desservis par l'usine fleuve de la Régie des Eaux, laquelle est à l'arrêt depuis dimanche 18 janvier à la suite d'une panne sur les réseaux électriques de la SNEL. Il s'agit notamment du quartier Mambote, Momo, Nord, Kassou, Kinkanda, Dalias, Biwewe, Belvedere, Oebeka et Kitomessa. À moins de 3 jours sans eau potable, les réserves d'eau se sont épuisées et la population de ces quartiers court déjà dans tous les sens avec les récipients en main en quête de cette denrée vitale. Témoignage.
Nous souffrons depuis le dimanche soir où il y a eu une panne à la Régie des Eaux. Nous avons entendu que les agents sont à pied d'œuvre pour tenter de résoudre la situation. Force est de constater que jusque-là, aucune amélioration n'est faite et ça commence à en pâtir un peu avec les attentes de la population que nous sommes parce que c'est tous les jours que nous utilisons de l'eau et les réserves commencent à s'épuiser et ça c'est ce qui nous dérange de plus en plus.
La Régie des Eaux de son côté rassure que ses équipes techniques sont en collaboration avec celles de la SNEL et poursuivent les interventions sur l'usine fleuve afin de décanter la panne. La Régie des Eaux promet un retour progressif à la normale dans les heures qui suivent. Matadi, Nana plus riche Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Dans le cadre des nouvelles règles migratoires voulues par le président Donald Trump, les États-Unis ont annoncé la suspension à compter de mercredi 21 janvier de toutes les demandes de visas d'immigration permanente pour 75 pays dont 26 États africains, parmi lesquels la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal.
L'invité.
L'armée congolaise a annoncé lundi 19 janvier s'être déployée dans la ville d'Uvira au sud Kivu. Le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, s'en était retiré le samedi 16 janvier, répondant, selon lui, à une demande américaine. Les Wazalendo ont fait leur entrée dans cette ville le dimanche matin. Il s'en est suivi des scènes de pillage des magasins d'habitation et certains bureaux de l'État. Pour sa part, le gouvernement de la RDC annonce la mise en œuvre d'un plan de restauration progressive de l'autorité de l'État dans la ville d'Uvira et ses environs. Cette thématique était au centre des échanges dans l'émission Dialogue entre Congolais de ce mardi soir. Les différents intervenants à cette émission ont analysé cette question. On les écoute au micro de Guy Matechongo.
Bonjour, Jean-Jacques Porossi, vous êtes gouverneur de la province du Sud Kivu. Le M23 aurait menacé de retourner dans la ville d'Uvira. Selon certaines informations, ces mouvements rebelles se lamenteraient du fait que, quand elle a quitté cette ville d'Uvira, elle a demandé à ce qu'une force neutre, la MONUSCO, puisse se déployer et pas les FRDC, les Wazalendo, comme cela s'est fait actuellement. Est-ce que vous confirmez cette information faisant état des menaces de la rébellion M23 de retourner dans la ville d'Uvira?
Ce n'est pas eux de fixer les conditions. Les FRDC se sont réinstallés et les FRDC font un travail fantastique où la communauté internationale a déjà félicité l'État congolais. Et seulement la tactique que l'AFC M23 appuyée par le Rwanda a utilisée, c'était la stratégie du chaos, au moins ou le chaos, en allant demander aux populations banyamulenge qui sont des compatriotes congolais de quitter, de les suivre, de quitter la ville. Contraint, forcé, le doigt à la gâchette. Hein. Et donc, quand les FRDC sont rentrés, toutes les familles qui ont pu se cacher contre l'AFC-M23, toutes ces familles ont pu être recueillies par les FRDC et réinstallées dans leurs biens. Voilà un peu la réalité.
Rigen Miviri, vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche et du groupe d'études sur le Congo GEC. Comme les rebelles se sont retirés sous pression américaine, cela voudrait dire que cette même pression peut être utilisée pour leur demander de libérer aussi Bukavu et pourquoi pas Goma?
Je suppose que oui, mais en fait la question, il faut regarder les deux contextes. L'accord de Washington s'est passé après la prise de Goma et de Bukavu, à différence d'Uvira. Donc il faut se rappeler que cette nouvelle escalade a été lancée par le M23 et l'armée rwandaise à partir du 2 décembre, c'était avant la réunion de Washington entre les présidents congolais, rwandais et américains, qui s'est passé plutôt après, et la prise de la ville d'Uvira a eu lieu le 10 décembre. Donc, vous voyez déjà le contexte, et vous voyez aussi que les États-Unis avaient tout intérêt à montrer que cet accord-là ne peut pas être bafoué comme cela. Alors qu'à ce qui concerne Goma et Bukavu, le contexte était tout autre. Malheureusement, la rébellion a passé beaucoup de temps. À partir du 27, on va parler du premier anniversaire de la prise de la ville de Goma. En février, ça sera aussi le premier anniversaire de la prise de Bukavu. Et donc, j'ai comme l'impression qu'il s'est passé beaucoup de temps pour que, sans un accord concluant dans le cadre du processus de Doha, il me semble qu'il sera difficile que la rébellion quitte toutes les zones qu'elle occupe actuellement.
Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, vous êtes député national honoraire, vous êtes premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID en sigle, parti membre de la coalition Lamouka. Vous êtes également notable de la province du Nord Kivu. À votre avis, que devrait faire le gouvernement pour capitaliser cet acquis du retrait du M23 de la ville d'Uvira?
Lorsque je compare le retrait d'Uvira aujourd'hui du retrait du M23 de Goma à novembre 2012, je trouve que les conditions sont totalement différentes. Aujourd'hui, le territoire sous occupation rwandaise M23 est le plus large. Aujourd'hui, nous n'avons plus à espérer que des troupes tanzaniennes, malawites et sud-africaines vont venir derrière les FATC pour une opération militaire. Aujourd'hui, contrairement à Kampala qui avait démontré le vide des revendications du M23, Doha est à panne. Au regard de tous ces contextes-là, la seule issue qui s'offre devant nous, c'est amener les États-Unis à faire pression aussi bien sur Félix que sur l'AFC M23 en vue d'un dialogue inclusif. Mais ce dialogue exige le préalable, c'est-à-dire l'effectivité du cessez-le-feu. Cela exige également que l'on exige de toutes les parties la création des conditions de décrispation politique.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission Dialogue entre Congolais sur www.radiocapi.net. Voilà qui met fin à notre grande édition du Journal du Matin, coordonnée et supervisée par Alain Irung Mochinge et mise en onde par Pierre Diassinois. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la radio de la paix.